à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral dans l'émission 100% foot et nous allons avec Patrick qui est mon binôme de cœur, de qualité et de toujours, nous allons pouvoir parler de cette journée de championnat de Ligue 1 et évidemment terminer par la meilleure note possible de cette journée de Ligue 1 bien entendu qui s'est déroulée hier au soir. Nous sommes mardi, hier au soir c'était donc lundi soir. Exceptionnellement, le match dont nous allons discuter s'est disputé hier au soir. Nous allons parler également du football avec Aubagne en national et notre section féminine, en l'occurrence les Olympiennes, de l'Olympique de Marseille, bien entendu. Et nous allons donc démarrer cette émission, voilà. On va parler rapidement d'Aubagne dans un premier temps. Il se trouve que Aubagne a joué dernièrement, a reçu Aubagne-Arbel, hein, bien entendu, a reçu Versailles. Bon, a fait match nul, 1-1. Bon, finalement, une belle prestation de cette équipe avec un but de Chaban pour l'égalisation, qui est un récidiviste qui marque pas mal de buts. A souligné que cette équipe d'Aubagne ne gagne pas forcément, mais ne perd pas ses matchs. Oui. Beaucoup de matchs nuls, en l'occurrence. Et bon, ben, la prochaine journée se déroulera très bientôt, hein, donc la 8e, semble-t-il, vendredi 26 septembre à 19h30. Voilà. Ils joueront donc Aubagne à Fleury. Aubagne, pour l'instant, est 8e, me semble-t-il, avec 9 points. Donc, ils tiennent bien la route.
En milieu de tableau, il faut quand même signaler que l'adversaire de vendredi dernier à Aubagne, Versailles, était second du championnat. Donc, absolument. C'est quand même une grosse équipe.
Une grosse équipe.
Faire une équipe qui, théoriquement, joue la montée, quoi. Donc, c'est pas mal de faire un match nul contre une équipe.
Il y a vu le match... Bon, le score, je dirais, reflète la partie, mais enfin, Aubagne-Arbel aurait pu l'emporter malgré ce, et en tout cas, un très bon résultat de la part de nos Aubagnais. Ouais. Voilà, voilà pour la nationale. Alors, on va parler rapidement de, voilà, les Olympiennes de l'Olympique de Marseille, évidemment, qui ont joué, qui ont reçu pour la première fois au stade Turquan hein, à Martigues. Voilà le match où reçoivent nos Olympiennes. Voilà, ils ont perdu de face à Versailles. Voilà,
bon. Face au Havre.
Au Havre, autant pour moi.
Oui, Versailles, c'était au Bagne.
C'était au Bagne, autant pour moi. Oui, ils ont perdu face au Havre. Évidemment, ben, match quand même pas super, malgré un tir au but de... Mademoiselle Brouilleux, voilà, qui marque toujours autant de buts, sur un tir au but en l'occurrence. Mais voilà, il va falloir qu'elle se reprenne pour la journée suivante, qui se déroulera samedi 27 à 17h, à domicile, donc à Turquan, en l'occurrence. Voilà.
Oui, c'est-à-dire c'est quand même un peu embêtant de jouer sur un stade que tu ne connais pas.
Et qui reste quand même un stade grand.
Oui, c'est un stade de Ligue 2, c'est un stade important, mais il n'y a pas énormément de monde. Et c'est le Havre est une équipe qui était déjà en Ligue 1, et c'est vrai que quand tu arrives de deuxième division, le palier, il est important. D'ailleurs, tu parlais de Bourdieu qui a marqué.
Oui.
C'est une fille qui a été achetée, je crois qu'elle était au Paris Football Club.
C'est ça.
Une des...
On a récupéré quelques joueuses.
Voilà, elle était là. C'est le Paris Football Club, c'est le troisième club de première division de Ligue 1 Arkema, avec la première division féminine. C'est une belle équipe et le Havre est une équipe expérimentée. Et tu t'es fait un peu. Voilà, il y a un sacré palier entre la Ligue 2. Et disons que les équipes, les joueuses qui viennent de Ligue 2 ont des fois un certain temps d'adaptation. C'est ce qu'on appelle le métier, le vice, l'expérience.
Absolument.
Tu te fais un peu avoir. C'est dommage parce que un match nul aurait été peut-être plus... Voilà.
Oui.
Mais bon.
En effet. Il est vrai qu'après une première déconvenue face au Lyon, bon, ben, vous attendez peut-être... à un regain d'énergie et de volonté de gagne pour nos filles. Oui. Bon, ben, ce n'est que partie remise. Hein.
Savoir que Lyon, c'est quand même une équipe qui a été 6 ou 7 fois vainqueur de la Ligue des Champions féminines, habituée des demi et quarts de finale de Ligue des Champions, très expérimentée. Et comme on avait perdu 3-1, mais à Lyon, on faisait un bon match.
Très belle prestation. Voilà.
Et en fait, c'est pas pareil que d'être chez soi, de devoir dominer, de devoir construire. Donc c'est de l'apprentissage. Il faut qu'elle s'y mette, mais il faut pas non plus attendre 10 ans parce que les points perdus ne se rattrapent pas.
Bien entendu, même si nous sommes à l'entame de ce championnat, à la seconde, et là la troisième rencontre se déroulera donc contre le FCF 91 le samedi 27 à 17h à Turquin.
Voilà. Équipe qui est aussi une ancienne équipe de Ligue 1. C'est une équipe qui a une bonne expérience. Donc, il faudra se ressaisir.
Et prendre ses marques dans ce stade Turquin, évidemment, qui sera et qui est leur nouveau domicile. Voilà pour la section féminine. On va attaquer, je dirais, de plein fouet, en rappelant rapidement les résultats de cette cinquième journée de la Ligue 1. Ça a commencé, je dirais, avec tout simplement par Lyon qui a battu Angers 1-0. Nantes et Rennes ont fait match nul 2-2. Brest a battu Nice 4-1. Les Niçois, les pauvres. Enfin bref, c'est une parenthèse rigolote. Lens a battu Lille 3-0. Le Paris FC a un match que nous allons disputer la semaine prochaine. Le Paris FC a perdu face à Strasbourg à domicile 3-2. Monaco a battu 5-2 Metz. Le Havre a fait match nul 1-1 face à Lorient. Auxerre a battu Toulouse 1-0. Et tiens, pour terminer, il me semble bien que cette dernière rencontre de cette journée, donc lundi soir, en l'occurrence, hier au soir, l'OM a battu le PSG 1-0.
Voilà. Oui, alors on va commencer par éliminer le fait que le match a été reporté dimanche soir. Il y a eu une campagne de certains médias de foot. L'équipe, pour ne pas les nommer, qui ont critiqué le fait qu'on n'ait pas reporté.
Entre autres.
Voilà, parce qu'il y avait...
Because, comme diraient nos amis britanniques, la cérémonie du Ballon d'Or.
Ballon d'Or qui est organisé par France Football, qui est le même groupe que l'équipe. C'est les cousins germains. Et donc, ils ont fait un flanc. Ils avaient en plus l'exclusivité télé. Donc, c'est des spectateurs perdus. Les mecs qui ont regardé le match au MPG, ils n'ont pas regardé le Ballon d'Or. Enfin, en tout cas, en début.
On peut le comprendre, tout à fait.
Mais on rappelle que le règlement, il dit qu'en cas d'intempéries qui font reporter un match, il se joue le lendemain si les intempéries le permettent.
Très naturellement.
Ce qui était le cas. Et pour avoir été à Marseille dimanche soir à 19h, quand tu as vu ce qui tombait, les inondations et tout, c'était même très dangereux de laisser des gens. On rappelle qu'au Vélodrome, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Hein.
Absolument.
Moi, je suis abonné avec un copain qui habite Salon, j'ai un pote qui habite Saint-Maximin, un qui habite Manosque, qui viennent, et mon neveu qui habite Saint-Canat.
Par exemple,
voilà. Et ça fait une sacrée circulation, et les intempéries, les inondations, la pluie, tu rentres à 1h du matin, c'est dangereux.
Bon, il est vrai que l'annulation pour cette soirée, donc le report, était fort plus que justifié.
Voilà, plus que justifié, il a donc été remis au lendemain, et à 20h, parce que certains PSG voulaient qu'on le fasse à 15h, sauf que les supporters, ils sont au stade, mais ils travaillent avant d'aller au stade.
Ouais, paraît-il.
Voilà, il y en a qui bossent. Et donc, ce qui n'est pas mon cas, moi je suis retraité, mais les gens qui travaillent, moi je sais que la plupart des copains avec qui j'étais au stade, ce sont les gens qui travaillent qui n'auraient pas pu être là à 15h, parce qu'ils bossent.
C'est évident.
Donc le match, on l'a fait à 20h. Et ils voulaient faire un truc publicitaire. D'ailleurs, en rentrant à la maison, je regardais l'équipe pour voir le Ballon d'Or. Oui. Soit dit en passant, bravo à Dembélé, qui l'a bien mérité.
Absolument.
Qui a fait une très belle saison.
J'ai fait de la même manière. J'ai regardé la fin de la cérémonie à la fin de ce match.
Voilà. Et on avait donc la claque supporter du PSG qui chantait Ousmane Ballon d'Or dans le théâtre du Châtelet, ce qui manquait un peu d'élégance. Ils sont tous en smoking et tu avais les mecs. Enfin bref.
Ouais, j'ai vu au balcon, me semble-t-il,
voilà,
du Châtelet.
Balcon. En fait, ils avaient fait rentrer toutes quelques centaines de supporters qui ont fait la claque.
On dirait entre guillemets les amis d'enfance.
Voilà, les amis d'enfance. Et sans se demander ce qui serait passé si ça n'avait pas été lui, d'ailleurs. Parce que je ne suis pas certain que les gens auraient eu la finesse d'applaudir Yamal.
Mais d'ailleurs, il faut reconnaître l'élégance de Dembélé avec Yamal, qui était côte à côte. Lors, justement, il s'agissait de lui et de Yamal, qui étaient côte à côte pour l'attribution de ce ballon d'or. Et il a été justement très bon dans son comportement et il faut le souligner.
C'est d'ailleurs tous les échos qu'on peut avoir sur le joueur, hormis le fait qu'il était un peu branquignol quand il était jeune, qu'il passait les soirées à bouffer des McDo bien gras avec des frites au ketchup et en buvant du coca, qui n'est pas exactement le régime
alimentaire
de professionnel, et qu'il était plutôt pizza, et donc, mais ce qui était probablement l'explication de ses blessures en répétition, du jour où il s'est encadré avec un diététicien, un préparateur physique hyper costaud, il a fait des gros progrès, il est très peu blessé, et c'est devenu un super joueur qui a bénéficié du résultat de son équipe. Parce que
c'est évident. Au-delà de son talent et de ses capacités, il a su justement s'aligner sur au-delà du régime, d'une manière, je dirais, plus que convenable. Et il a mis en exergue son talent, il a pu en faire bénéficier en même temps que son équipe.
Oui.
Et on peut parler aussi de l'équipe nationale. Notre sélectionneur était présent lors de la cérémonie et il a félicité vivement, ainsi que Dembélé qui a remercié.
Et
tout.
Il faut quand même rappeler que Dembélé, c'est un joueur qui est extrêmement discipliné.
Oui.
Moi, je me rappelle, il avait été très critiqué, d'ailleurs.
Il a appris à l'être.
Voilà, par les mêmes médias qui aujourd'hui l'encensent, parce qu'il jouait ailier droit, et Deschamps lui avait donné une consigne de défendre, et Dédé Koundé, qui était arrière droit, à défendre.
Ouais.
Et Dembélé, on lui reprochait dans ces mêmes magazines qui aujourd'hui le portent au nu, on lui reprochait de défendre, de peu attaquer, d'être arrière et de pas créer du danger. Mais tu ne peux pas défendre et attaquer, c'est compliqué.
Compromis difficile à mettre en place.
Ouais. Et c'est vrai que ce qui plaît beaucoup à Deschamps, c'est que c'est un gars qui respecte les consignes et qui applique. Tu lui dis, file un coup de main, tu défends, le mec il travaille. Évidemment, quand tu travailles et que tu cavales comme une dératée pour défendre, tu perds du jus pour attaquer.
C'est difficile, justement.
C'est une évidence, mais il avait été très critiqué là-dessus parce qu'il respectait les consignes et il avait bossé pour le collectif. Et c'est ce qui le caractérise, Dembélé. Moi, c'est ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est un joueur qui joue pour l'équipe.
On l'a bien compris. Je dirais, au-delà de son discours, il l'a prouvé sur le terrain, en club et également en équipe de France. Il sait être discipliné et se mettre justement
au service
du collectif.
Donc toujours est-il que hier soir, donc lundi, nous avons joué le PSG et ils n'étaient pas très contents. Je pense qu'ils auraient préféré être à la cérémonie. Et d'ailleurs, on l'a vu en fin de match où ils ont commencé à laisser traîner les pieds et à chercher la bagarre. Mais ça s'est bien passé puisque l'OM a gagné. Et c'était un match surtout dans une ambiance assez extraordinaire parce que
c'est le moins que l'on puisse dire.
Voilà, moi qui suis un habitué des virages, hormis le fait que le tifo, j'étais de ceux qui tenaient Il y avait, c'était des, un truc en corde grillagé et tout.
Magnifique,
sur lequel il y avait le tifo.
Des deux côtés, en l'occurrence.
Voilà, oui. Virage sud, donc moi, c'était derrière le tifo olympique de Marseille, qui faisait toute la tribune, 130 mètres.
Avec l'année de naissance du club, voilà. Qui a dû en faire jalouser quelques-uns.
Oui, parce qu'il faut expliquer à nos auditeurs que c'était un chambrage 1899, un club historique. Le club existait déjà, mais le nom olympique de Marseille, c'est 1899. Mmh. Et un historique dans une ville en face, le virage nord avait un message 2600 ans Marseille. Voilà. Et rappeler à certains que leur club, il a été créé en 1970. Voilà.
Voilà. Que... On parle bien de notre adversaire d'hier au soir.
D'hier au soir, voilà, pour ceux qui n'ont pas compris. Et voilà. Et donc, il y avait quand même un léger chambrage là-dessus, sur le côté historique.
Bon, et donc, fabuleux tifo. Voilà. Mais ils ont failli te faire rater le premier but. Voilà. Le temps de replier bagages.
Oui, comme tu le dis, parce que le tifo, on l'avait mis. Et puis, bon... c'est long à monter. Je ne sais pas si nos auditeurs l'ont vu à la télé, mais le tifo du virage sud, il faisait donc 130 mètres, c'est la longueur du virage.
Ah, j'étais devant mon écran à domicile, donc c'était fabuleux comme perspective de vision. Mais...
Voilà, et donc par contre, tu le hisses à la force des bras avec des poulies, et après tu le redescends en contrôlant la descente, parce que si tu lâches tout, tu fais un carnage.
Ah ouais. Alors de mettre en exergue également virage sud, que les winners et les ultras, pour ne pas les citer, ont été, je dirais...
On travaillait ensemble.
C'est superbe.
C'est un gros boulot. Ouais. Et donc du coup, le tifo a été long à descendre. Le match a commencé... Le tifo n'était pas descendu. Donc, nous qui étions tribune, on ne voyait rien parce qu'on avait le tifo devant. Quoi. Voilà.
Et c'est vrai que le but du match est arrivé assez rapidement dans les 5 premières minutes.
C'est la cinquième, c'est ça. Et donc, en plus, on avait les capots qui disaient alors, tenez bien, tenez les trucs et tout, parce qu'on faisait redescendre. Et parce qu'en fait, on l'a replié pour le relever après la fin du match. Donc, ce qui fait qu'il est resté tout le match au milieu de la tribune. Et ce qui fait qu'à la quatrième minute, on avait encore le tifo devant. Et 30 secondes après, on rate le but de Naïef Aguerd.
Voilà. Certains diraient la boulette qui n'en est pas une, de Chevalier qui est le gardien du Paris Saint-Germain, mais en l'occurrence, quel but d'Aguerd qui a été là et comme il a fallu l'être et qui a délivré le stade à ce moment-là.
Oui, alors là-dessus, moi je dirais un petit mot.
Ouais.
Il s'est fait massacrer dans l'équipe et puis dans les médias. Il a fait une
entendu ça, mais...
Alors c'est vrai que ça tombe le même soir où... L'ex-gardien du PSG, Donnarumma, qui a eu une part essentielle dans la victoire en Ligue des Champions, recevait le prix du meilleur gardien du monde, le prix Yachine. Mais il faut quand même savoir, quand on regarde, moi j'ai un peu revu les images sur Internet après le match, le centre de Greenwood, qui centre, est contré par le défenseur de PSG, Pacho. Très légèrement.
Et Marquinhos, qui a gêné également son gardien.
Voilà, qui était au marquage déroulé, de Aguerd, a gêné son gardien.
Ouais.
Et le ballon, il a été légèrement détourné. Il a pris une trajectoire un peu bizarre.
Voilà, oui.
Ce qui peut expliquer que le mec, il n'a pas eu une bonne lecture. Hein, parce qu'il sort, en fait, il est court. Il sort le point à l'avant pour dégager le ballon et il est trop court, il n'arrive pas à voir le ballon. Il y a Aguerd derrière,
totalement,
il passe devant Marquinhos, ce que, mon avis, le plus fautif, c'est Marquinhos, qui ne doit pas se laisser passer devant par Aguerd, et donc il met la tête et il la met au fond. Voilà. Et Marquinhos se fait avoir parce qu'ils sont au duel. Mmh. Et normalement, tu dois empêcher l'autre de mettre un coup de tête. Les buts sont vides.
Ce qui semble évident, mais non, pas sur le coup en tout cas. Mmh. Et merci à Aguerd
de sa prestation sur ce coup-là. Et Chevalier, c'est raté, mais enfin, c'est pas non plus la boulette du siècle.
Non, pas du tout.
C'est que le ballon était légèrement détourné. Il a peut-être bu une trajectoire compliquée. Ça, il faudrait voir les images... qui aurait filmé de la touche pour voir si le ballon il a eu une trajectoire en particulière. Moi, c'est ce qui m'a semblé. Hein.
Oui, oui, mais je suis assez d'accord avec toi pour avoir revu les images à plusieurs reprises. Mais il est évident que les détracteurs, ils vont montrer sur les médias habituels.
Ça fait, ça permet de parler. Oui. Il est moins bon, il n'est pas bon, machin. Toujours est-il qu'on a marqué les premiers.
Oh oui.
Qu'on a fait une très bonne première mi-temps.
Il faut le souligner. Une première mi-temps, je dirais, superbe. Je ne m'attendais pas à cela.
Voilà. Avec, entre autres, une frappe de Gouiri sur la barre. Qui a été... où le chevalier était battu. Il a pris plein fer à la barre. Et donc, le ballon n'est pas rentré.
Et ce moment-là, j'espérais de tout cœur que nous ne le regretterions pas.
Voilà, on a mis un second but, mais Pavard était très légèrement hors-jeu sur le coup de pied arrêté.
Bon, qui semblait, je dirais, sur une position d'hors-jeu de position, mais il était hors-jeu, mais très légèrement.
Oui, voilà. D'après le VAR, voilà, il est légèrement hors-jeu. Et donc, on aurait pu revenir au vestiaire avec un score meilleur. Paris n'ayant pas été très dangereux, deux trois occasions, une belle frappe de Kvaratskhelia mais à côté.
Il est vrai. Hein,
et Rouli qui a fait deux belles sorties dans les pieds de Ramos et de Fabian Ruiz, je crois.
Oui.
Sur deux belles actions. Et donc on avait fait une très bonne première mi-temps.
Oh oui.
Après, en seconde mi-temps, on a eu du mal.
J'ai l'impression physiquement qu'on était un peu en dedans en seconde période. En même temps, les Parisiens avaient évidemment à cœur à revenir dans cette partie. Mais j'avais peur que ce milieu de terrain qui avait l'air d'être beaucoup plus densifié vu le schéma de jeu du Paris Saint-Germain qui jouait à trois défenseurs et un milieu de terrain... on a réussi justement à colmater et à réaliser un super match à ce niveau-là.
Voilà, tu le disais, Franck, il jouait à 3, c'est-à-dire en fait, je pense que Luis Enrique, il a voulu s'adapter. Il avait mis 3 défenseurs centraux, Zabarni, Marquinhos et Pacho, l'équatorien, celui qui a légèrement détourné le centre de Greenwood,
en
d'ailleurs.
Effet,
voilà. Il avait mis donc ces deux latéraux très offensifs, Hakimi à droite, Neves à gauche, le portugais. Ouais. Et il avait mis Vitinha avec Fabian Ruiz et Zahir Emery qui remplaçaient João Neves. Mais Zahir Emery est quand même international français, hein, c'est quand même un très bon joueur.
Oui, malgré les absences, quelques absences majeures du Paris Saint-Germain qui étaient conviées à la cérémonie du Ballon d'Or, hein, même si ça a quelques critiques, on ne va pas y revenir là-dessus, concernant justement ce match qui s'est déroulé lundi soir, alors qu'il voulait dans un premier temps, après l'annulation du premier match et le report, nous faire jouer l'après-midi.
Oui. Il proposait à 15h le match, mais les gens de travail, ils ne pouvaient pas y être.
Paraît-il.
Ou il proposait le 2 décembre, et c'est une période en fin d'année où il y a 9 semaines dans lesquelles il y a 3 matchs par semaine, sauf la semaine du 2 décembre, où le mercredi est au milieu. Et donc, on avait donc... une période de 9 semaines où il y avait 3 matchs par semaine, sauf celle-là. Et donc, il y a quand même besoin de souffler. Alors, c'est vrai qu'après, moi, je pense, il faut être honnête, ils avaient 4 blessés, des joueurs importants, surtout en attaque.
Oui.
Et donc, tu n'es pas sûr que le 2 décembre, ce n'est pas toi qui aies 4 blessés.
On est bien d'accord.
Et que, que la Ligue des Champions, ça prend beaucoup d'énergie. Et que tu n'es pas des mecs crevés et que tu avais besoin de ta semaine pour récupérer un peu.
Absolument, nous n'avons pas le règlement qui dit que le match étant annulé, il est reporté au lendemain.
Au lendemain, voilà, tout simplement. C'est la règle d'ailleurs, soit dit en passant, en Ligue 1 comme en Ligue 2, ça s'est déjà fait des dizaines de fois.
Bien entendu.
Et personne n'a gueulé comme des morts de faim.
Oui.
Mais bon, on a gêné l'opération publicitaire et télévisée du Ballon d'Or, donc ça a été mal vu. On a même reproché de ne pas passer à l'intérêt supérieur du football français. Ce qui est quand même un peu gonflé.
Oui, c'est carrément...
C'est franchement, vas-y...
plus que déplacé, comme à propos.
Achète le cirage pour les pommes panacères et calme-toi. Et donc, on l'a fait. En seconde mi-temps, effectivement... alors, la mise en place de Luis Enrique, elle était, à mon avis, intelligente.
Oui.
Il avait laissé Gonçalo Ramos et Kvaratskhelia en pointe.
Oui.
Avec des milieux et des latéraux qui devaient plonger. problème, c'est qu'en prenant un but à la cinquième minute...
Après, il fallait évidemment...
Voilà, il fallait adapter.
Sur la situation. Ouais.
C'est peut-être là-dedans que ces absences à la fois Dembélé, oui, Doué et Barcola en attaque...
Justement,
fait que,
ces artistes finisseurs, voilà, qui faisaient défaut cruellement au Paris Saint-Germain.
Il n'avait pas le banc... Ouais. Pour remplacer, puisqu'il a fait rentrer le Coréen Kang In-li et le jeune Mbaye Niang, oui, là, sont rentrés, mais bon, ils ont mené de l'énergie.
Des
ils
joueurs de qualité, évidemment, ouais, comme pas démérités, parce que le Paris Saint-Germain a fait un bon match, malgré ce que l'on peut en dire.
Et voilà, il a fait aussi rentrer le jeune Mayulu,
ouais,
qui
ça,
est
ouais,
pas mal, qui joue mm-hmm, beaucoup en ce moment, qui est un bon joueur. Mais c'est quand même pas la qualité d'un Dembélé ou d'un Doué, voilà, ou d'un Barcola. Et donc, sa stratégie, c'est casser la gueule à la cinquième quand on marque.
Oui.
Voilà. Et il a eu du mal après à adapter. Et je pense qu'il pensait arriver à reprendre le contrôle en seconde mi-temps, où ils ont eu une grande possession. Et en espérant, ce qui s'est d'ailleurs passé, tu as me parlé, Franck, mm-hmm, que physiquement, on a fait un pressing monumental.
Oui, parce que là aussi, petite parenthèse, au niveau pressing, généralement, c'est le Paris Saint-Germain qui presse très haut ses adversaires, oui, sur la totalité de ses matchs, sauf hier au soir, où c'est nous qui avons entamé ce pressing tout terrain et qui a empêché les Parisiens, justement, de pouvoir se sortir de cela. Ouais.
Oui, et c'est vrai qu'en seconde mi-temps, on a un peu faibli.
Oui.
Alors, dans le pressing, moi, j'ai énormément apprécié le travail de Højbjerg et de O'Reilly,
le binôme danois, extraordinaire ce milieu,
qui a été au combat tout le match, qui a fait un très gros match,
un grand bravo à
les deux latéraux, Timothy Weah à droite et Emerson Palmieri à gauche, ont été excellents aussi, et les mecs ont fait un pressing, et les attaquants, Guiri a dû être remplacé, Peksao
qui n'a pas
été très bon parce qu'il revient de blessure, il manque de rythme.
C'est bien évident, mais enfin, son implication était réelle sur le terrain, et il a apporté l'ensemble de ses coéquipiers qui ont tout donné, qui ont été impliqués, le mot n'est pas galvaudé.
D'ailleurs, on s'en faisait la remarque avec les collègues en tribune.
Ouais.
À un moment donné, il y a un ballon qui est contré, ils se font intercepter une passe, ils essayaient de jouer, de se faire des 1-2-3 avec Guiri, je crois, et c'est Hakimi qui repart avec le ballon.
Ouais.
Et le mec, il a sprinté sur 50 mètres pour le...
Je me souviens de cette séquence de jeu, ouais.
Et d'ailleurs, Hakimi a essayé de traverser le terrain pour aller vers la gauche, et le mec, il a suivi... il a fait 50 mètres à la course pour gêner et contrer le contre-attaquant. Donc il a fait le boulot, même si on voit qu'il manque de rythme et qu'il n'est pas encore dans le coup. Et il s'est bien battu, mais nos attaquants ont dû être remplacés.
C'est normal, avec toute cette débauche d'énergie qui a été justement donnée sur ce match-là. Et il faut dire que tout un chacun de nos joueurs ont donné ce qu'ils pouvaient, en tout cas.
Oui.
On a tout donné, on peut le dire. Et en tout cas, pour le collectif, et on a senti cette implication collective qui, justement, m'a fait rêver et m'a donné l'envie. Et j'espère qu'on ne perdra pas les bénéfices. On a vu déjà ça face au Real Madrid dernière semaine. Évidemment, on sentait qu'il y avait quelque chose qui commençait à se mettre en place. Au-delà des joueurs nouveaux que nous avons mis sur le terrain, qui commencent à trouver leur place dans cette équipe. Et en même temps, on l'a vu hier, que c'est formidable collectif qui donne tout pour son collègue et partenaire.
Et on a remarqué, quand tu es en tribune, tu vois un peu des fois des choses.
Mm-hmm.
Que tu ne vois pas forcément à la télé, parce que la caméra, elle n'est pas dessus, c'est que sur les replacements, en seconde mi-temps, quand on prenait les vagues, on avait l'impression que c'était Pavard à droite et Naguère à gauche de la défense, qui replaçait Balerdi et qui faisait aligner la défense à trois.
Nous en discussions tout à l'heure, il est vrai que j'ai noté cela.
C'était très net. Et on sait qu'on a pris des buts à Rennes ou contre Lyon sur des problèmes de replacement et de se faire prendre dans le dos. Et c'est Balerdi qui était à chaque fois. Et c'est vrai que là, les deux mecs très expérimentés, ils ont 29 ans tous les deux, c'est des vieux routiers, ça apporte beaucoup. Et la défense, elle a été... Mais alors, puisque Tu as des belles actions parisiennes, mais tu n'as pas de grosses occasions, tu n'as pas eu de panique dans la surface.
C'est ça
de...
qu'on a réussi à maîtriser défensivement.
C'est vrai qu'Emerson, à gauche, il a fini bouilli, mais bon, Weah, il a été remplacé parce que Murillo a pu rentrer, il a fait son match. Oui. Emerson, il a fini mort. Et d'ailleurs, Greenwood, je pense qu'il voulait le garder jusqu'au bout, mais il ne marchait plus, il ne se relevait plus sur chaque tacle. Il était mort, il a dû le faire remplacer. C'est le jeune Basse qui est rentré, qui a fait une rentrée combative. Et donc, que vraiment, tout le monde, et y compris, ça c'est intéressant, Greenwood a fait un super match.
Absolument, tu fais bien de le souligner.
Ah oui, oui.
Dans tous les niveaux, c'est vrai que défensivement, souvent, on voit des lacunes de sa part, des replis qui sont durs à faire de sa part, mais là, il était... corps et âme sur l'ensemble de ce match. Il a voulu jouer jusqu'au bout.
Oui, il a fait un très bon match, revenant en courant, se repliant. Même à la 75e minute. Le mec, il redescendait. Et Aubameyang qui est rentré à la place de Pechao, qui revient de blessure, comme je le disais, qui a tenu un peu plus d'une heure, il ne pouvait pas faire plus. Ou même Nadir qui a remplacé Guiri, Aubameyang glissant au centre et Nadir fermant le côté gauche. Ils ont travaillé comme des brutes.
Ils se sont comportés de la meilleure des manières.
Tout le monde a fait le job, et c'est d'ailleurs en partie pour ça que même Pechao, quand il est sorti, il a été très applaudi alors qu'il n'a pas fait offensivement un grand match. Mais il s'est fondu dans le groupe, il s'est battu.
On a senti justement cette dépense, cette dépoche d'énergie justement pour le bien de ses partenaires. Bon, même si on pouvait malheureusement se dire que tiens, cette deuxième mi-temps, on a peur que les Parisiens se refassent la cerise, entre guillemets. Mais en l'occurrence, on n'a rien lâché jusqu'au bout.
Parce qu'on a fait un gros travail.
Oui.
Et c'est vrai que Paris, tu le vois quand même. Alors au stade, c'est quand tu as un virage, tu as le terrain en face de toi, donc tu vois les mecs sur les côtés qui appellent, qui se démarquent. C'est assez impressionnant. C'est une machine, c'est monumental.
C'est vrai que le travail sans ballon, tu as plus d'appréciation quand c'est filmé.
Parce que la télé, on te montre le joueur qui a le ballon.
C'est ça.
Voilà, on ne voit que
le cadre.
Là, tu vois les courses. Et Vitinha m'a impressionné parce qu'il redescend assez bas et c'est lui qui reconstruit, qui relance, qui des fois perce un peu, donne des ballons, écarte, enfin, qui essaie de t'attirer pour que tu montes sur lui, pour écarter sur un côté et tout. C'est assez impressionnant.
Un autre Parisien qui a été primé lors de cette célébration du Ballon d'Or.
Il finit troisième. Et quand tu vois le match qu'il fait, tu comprends pourquoi.
On comprend pourquoi. Ouais.
Voilà. Et là, on a eu le mérite de se battre jusqu'au bout, de rien lâcher. Et... on a fait un bon match et vraiment de quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens l'ont dit, mais un groupe est né là-dedans.
Oui. Oui, on l'a entendu souvent ce propos, mais là, je crois véritablement que le terme va parfaitement à ce moment-là. Un groupe est né, je suis totalement d'accord avec toi. Le retirer-ro n'est pas forcément... est envisageable là prochainement.
Oui, il devait partir à Rome, il devait partir lundi matin et rentrer vendredi directement à Strasbourg.
Pour souder l'équipe,
voilà.
etc.
Et finalement, ils l'ont annulé parce que ça te faisait partir mardi dans la journée.
Oui.
Mardi matin, tu as les soins de la veille et du match de la veille. Donc ça faisait trop court et un voyage à Rome pour pas grand-chose.
Mais je pense que le groupe est né totalement. C'est pas galvaudé comme terme.
Et tu le vois d'ailleurs si nos auditeurs ont pu voir les images à la fin du match, quand les joueurs sont venus saluer les tribunes, les deux virages et tout. Tu avais les mecs qui chantent, qui dansent, tu sens que les mecs, ils étaient... ils regardaient les tribunes, ils disaient « qu'est-ce que c'est que ce truc de malade ?»
Ah, enivrant comme sensation, je me suis mis à la place des joueurs alors que je suis devant mon petit écran. Il est évident que c'est plus que galvanisant comme situation. C'est génialissime.
Ah oui, ça te fait une équipe. Là, maintenant, ce qu'a dit très justement Roberto De Zerbi, il ne faut pas aller à Strasbourg en claquette, et voilà, se disant « c'est bon, on a battu Paris, on a tenu tête au Real Madrid sans un pénalty en bois, on ramène un match
nul ». Il ne fallait pas perdre le bénéfice.
Voilà,
de...
il faut aller faire un résultat à Strasbourg. Parce que Strasbourg, ils sont, n'oublions pas qu'ils sont premiers.
Hein. Et oui, voilà, dans quelques jours, on va les rencontrer à la Méno. Et bon, il ne faudra surtout pas perdre les bénéfices de nos matchs. Voilà
donc, ils sont premiers ex aequo avec ouais. Paris, Monaco et Lyon avec 12 points. Et nous, on est à 9. Voilà, et il ne faudrait pas perdre le bénéfice en allant se faire battre à Strasbourg. Et puis, ça pourrait casser la dynamique.
Voilà, voilà. C'est ça.
Parce que mardi prochain, donc dans une semaine...
Tout ça enchaîne très vite.
Hein. Voilà, on reçoit l'Ajax en Ligue des Champions.
Et voilà, c'est reparti. Ouais.
Ça ne sera pas un match commode en Ligue des Champions.
Avec l'enchaînement, ensuite, nous irons à Metz, en championnat.
Après, il y a une trêve. Voilà.
Oui.
Après, il y a une trêve internationale qui va permettre, mais malheureusement ou heureusement, la plupart de nos joueurs sont concernés par les équipes nationales.
Ils seront présents avec leurs équipes nationales respectives.
Voilà. Donc, c'est un problème. Mm-hmm. Il ne faut pas casser la dynamique.
Il faut optimiser la situation actuelle et justement, et ne pas perdre justement les bénéfices de ces bienfaits face à ce match à Strasbourg. Voilà.
Parce que c'est sûr que là, le match lundi soir...
Ouais.
Même si tu as 3 jours, hein, tu as Strasbourg vendredi soir, donc tu pars vendredi matin, je pense qu'ils partiront vendredi et pas jeudi soir.
Oui, certainement.
Voilà. Mais tu as le temps de récupérer, mais c'est quand même juste, les mecs ont fini bien bouillis.
Ah oui, là, il n'est pas question de phase d'entraînement physique, etc. Simplement du repos et de la récupération pour nos joueurs.
Et des soins. Parce que c'est vraiment au mental que tu vas y aller. Quoi. La victoire appelle la victoire, comme on dit.
Oh que oui.
Mais donc, bref, on a fait un gros match.
Ouais.
Et on s'est bien battu. Et il n'y a rien à dire. La victoire est méritée. Il n'y a pas eu de décision contestable, si ce n'est que l'arbitre n'a pas une seconde mi-temps.
Oui, on pourrait parler de la seconde période où j'ai trouvé... l'équipe adverse, pour ne pas les citer, qui était beaucoup plus agressif à notre encontre, avec des coups, etc., qui n'ont pas été sanctionnés comme il se devait.
Comme il aurait dû, parce que l'arbitre, il a mis des cartons à l'OM, il en a mis 4.
Ben ouais, il n'a pas hésité, justifié.
Qui était justifié globalement. C'est des fautes d'anti-jeu qu'on appelle tirage de maillot. Voilà, mec, que tu dégommes un peu en sachant que tu n'auras pas le ballon, mais boum, tu arrêtes le contre et tout. Par contre, Paris en a fait, a même mis quelques coups un peu méchants, et il n'a pas sorti les cartons, il a sifflé.
Beaucoup de séquences d'anti-jeu de leur part qui n'ont pas été sanctionnées comme elles le devaient.
Et en fait, l'impression qu'on avait, c'est qu'il se laissait avoir, parce que chaque fois qu'il y avait un arrêt de jeu, il y avait 3-4 Parisiens autour de lui. Qui te parle, il m'a mis un coup, et toi tu en mets autant que l'autre, tu en mets même plus.
Évidemment, il a été un peu enfumé par les joueurs.
Le vice, et il y a eu plusieurs fois des situations où ça a été scabreux, et où il aurait peut-être dû sortir un ou deux cartons pour dire vous vous calmez.
Ben.
Ce qu'il n'a pas fait et qui a tendance à être un peu...
C'est tout à fait ce que je pense et ce qui a été le cas.
Parce qu'on a clairement vu que Paris est une équipe qui n'aime pas perdre.
Ben ouais. On a vu justement cette... Je ne sais pas si on peut parler d'acte de rébellion, mais ils ont cherché la bagarre, comme on dit chez nous, en seconde période.
Et en fin de match, ils ont multiplié les provocations, les cinémas.
En cherchant justement à provoquer, à nous provoquer. Ouais.
Et disons que l'intérêt qu'on a eu après, quand il y a un Aubameyang, c'est un mec d'expérience, il ne va pas tomber dans le panneau. Mais je veux dire, ils ont essayé de jouer la provoque. Et même à la fin du match, après le coup de sifflet, il y en a qui sont venus. Ça a été limite.
Ça a été plus que limite, d'un comportement de la part de joueurs parisiens qui... Bon, l'avait mauvaise, on le dit chez nous. Mais bon, comportement qui n'est pas digne de joueur de ce calibre-là.
Heureusement que
celui qui a morflé, c'est De Zerbi, parce qu'il a fait un carton rouge.
Oui, il a pris un rouge. En fait, il a dû. C'est sur une action où ouais. Vaz se fait découper oui, par, oui, oui. Je ne sais plus qui c'est, je ne sais pas si c'est Marquinhos ou Hakimi qui le
découpe. Ouais, un des deux, ouais.
Voilà, et
deux coups qui mis du
devant
fait.
Lui, donc il est à 3 mètres de la ligne de but et De Zerbi de l'autre côté, et l'arbitre laisse jouer, il laisse une touche
ouais.
Et pour Paris. Et donc il râle et il prend un jaune et il a dû lui dire un truc
bah,
genre,
voilà, il a été averti à deux reprises
et il a mis un rouge
ouais, ben...
mais bon c'est pas lui qui est sur le terrain, mais je veux dire là l'arbitre il a un peu été et je pense que c'est de l'intox quoi.
Oui.
C'est
oui,
ce
oui.
qu'on reproche au Real Madrid voilà, où l'arbitre il s'excuse d'expulser Carvajal qui a mis
ouais,
le coup de tête en roulis
c'est.
Et puis après il te siffle un péno en bois 5 minutes après, voilà.
Ça fait partie du folklore, ouais, intox, ouais. Comme tu le dis si bien.
Voilà, et eux c'est Paris, c'est machin, c'est le Qatar qui dirige le football français. Et donc du coup, l'arbitre, il est quand même un peu ses petits souliers. Il est conditionné, on dira.
Voilà.
Parce qu'il est honnête, voilà. Le mec. Il a fait,
ben oui.
Il a été correct. Ouais, et il y a des
il
actions.
Il a fait un match honorable, mais oui, évidemment oui, oui, que oui, tu ne oui. peux pas contrôler tout un phénomène
voilà. Et
autour de toi.
Le truc, c'est qu'il n'y a pas eu de décision
ouais.
douteuse.
C'est ça.
Il y a eu quelques fois où il aurait dû
oui.
sévir.
Avertir
voilà.
Et en seconde période souvent.
Et heureusement qu'on a une équipe, je reviens sur Pavard, Aguerd, Højbjerg, Aubameyang.
Ça veut faire preuve d'expérience
voilà.
Et ça veut faire doron
des
à ces moments-là.
Des vieux routiers, certains n'étant pas les derniers à chambrer. À
oui,
provoquer,
oui, oui.
D'ailleurs, mais
ben,
bon.
Je l'ai vu en tant que spectateur devant mon petit écran
ouais.
Et j'ai vu très bien les brancheries des uns et des autres. Côté marseillais, bien entendu,
ouais,
je
ne ouais.
citerai pas les noms, entre Ballardy, Holberg, etc., qui chambraient un petit peu leurs adversaires.
Ouais, ouais,
chose très naturelle, et je peux comprendre le contexte.
Ah, ouais.
Et ensuite, les Parisiens, ben, je dirais, en ont fait
ouais, ils
de
ont
même,
essayé,
voire pire.
Voilà. En fait, à mon avis, comme on avait pris
de nous
plusieurs
faire
cartons,
péter les plombs, entre guillemets.
Ils voulaient un second carton.
Ben, oui, évidemment.
Donc, dès qu'il y avait un joueur qui avait été cartonné, ils venaient, ils étaient à 5 autour dans l'arbitre, hein, ils gueulaient,
voilà.
Ils demandaient une sanction.
Absolument.
Voilà. Et l'arbitre s'est fait un peu déborder en fin
oui,
de
oui.
match, ce qui explique, je crois, le carton à De Zerbi, parce
voilà.
qu'il fallait qu'il
le
cartonne.
Le deuxième jaune, évidemment.
C'est lui qui a pris, parce qu'il n'est ouais. pas sur le terrain. Et il s'est vite. Il a quand même, il devait être content de siffler à la fin du match, parce
oui.
que ça devenait orageux.
Oui, oui, oui.
Après, heureusement que Hakimi, à Paris, Aguerd et Nadir
oui.
À l'OM sont marocains, ils
oui.
se connaissent.
Ah, ils se sont retrouvés
oui.
autour d'un thé,
voilà.
je crois, dans le vestiaire
ouais.
marseillais.
Voilà, il y a des images
ah
qui
oui,
montrent
on a vu ça, ouais.
Hakimi qui est venu boire le thé avec ses deux compatriotes marocains. Savoir que
pas mal comme image.
Bilal Nadir n'est pas international.
Non.
Ah, mais il a été retenu,
oui, oui, oui,
il
oui.
est dans les espoirs marocains.
Ouais, ouais,
ouais. Et donc voilà, et qu'ils se sont parlé, ça a un peu calmé. Que tu as des joueurs, donc Højbjerg, il chambre beaucoup,
oui.
mais il n'est pas idiot, il a du métier.
Bah évidemment, il sait justement
voilà.
gérer ces, ces moments.
Tu fais pas 10 ans en première
ouais.
ligue si tu es un amateur.
Évidemment.
Voilà, donc heureusement, ça s'est bien terminé,
oui.
mais c'est vrai qu'on a eu le sentiment, parce que nous, en tribune, copain, il a une application sur le téléphone. On voit les actions 10 secondes d'après sur le téléphone.
Ouais.
Voilà. Et donc, du coup, on a eu l'impression que, qu'il cherchait. Il cherchait à faire disjoncter.
Oh,
cherchait,
c'est,
voilà.
c'est évident. Hein,
voilà.
En ayant vu le match à la télé, ben, j'ai revu quelques images. Et quand bien même, hein, en direct, on voyait très bien qu'il
voilà.
poussait à faire disjoncter
voilà,
nos joueurs.
Il cherchait.
Ouais,
et
ouais.
on n'est pas tombé dedans, ce qui est une bonne chose. Et on a fait... Après... J'allais dire, c'est le business. Quoi. Tant que ça reste.
C'est de bonne guerre.
Voilà,
on va dire.
C'est, ouais, ouais, c'est pas glorieux,
non,
mais
c'est
de bonne guerre.
C'est clair, ouais.
Le chambrage a toujours fait partie
oui.
du foot. Et se chercher, se titiller, marquer son mm-hmm. territoire, faisait remarquer qu'à la première minute de jeu, Emerson, l'arrière gauche,
ouais.
il a découpé Hakimi
ouais,
en
ouais.
lui expliquant que ça, c'était son côté à lui, c'était pas le côté de l'autre. Quoi. Voilà.
On peut parler aussi de jeu à l'italienne.
Oui.
Non, entre guillemets, c'est très bien que ces joueurs d'expérience savent très
voilà.
bien que si tu ne marques pas ton territoire d'entrée de jeu, ben, pour calmer les velléités de nos adversaires,
voilà,
ben, en tout cas, ça a porté ses fruits.
Ça a porté ses fruits. Et donc, on remonte, on est sixième avec
voilà.
10 points. On est donc à 3 points des 4 premiers.
Voilà, on a réduit l'écart avec...
Et à un petit point de Lille, oui, qui est juste devant nous. Si on arrive à faire un résultat à Strasbourg, les deux matchs suivants, on va à Metz et on reçoit le Havre.
Et on reçoit le Havre après, ouais.
Ça devrait permettre de faire une belle petite remontée. Rappelant que l'objectif, c'est le podium pour la Ligue des Champions.
Bien entendu. Nonobstant, la deuxième rencontre en Ligue des Champions face à l'Ajax d'Amsterdam.
Voilà,
après Strasbourg. Ouais.
Je dis ça par rapport à certains trucs qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux ce matin, qui commencent à voir l'OM champion de France. Restons calmes. Parce que rappelons que Paris manquait quand même 4 joueurs et pas des moindres.
4 majeurs, plus que des 4.
Puisqu'il y avait aussi João Neves, le portugais au milieu de terrain, qui n'était pas là. Et quand tu vois la prestation moyenne de Zaïre Emery qui l'a remplacé, tu peux te dire que heureusement qu'il n'était pas là. Il est quand même, je crois, 19e au Ballon d'Or ou un truc comme ça.
Il y avait quand même 9 joueurs parisiens qui étaient...
Quand tu vois le mal que tu as eu à les battre à l'arrache et au courage chez toi, tu te dis que s'ils étaient au complet, c'est une autre paire de manches. Donc,
c'est évident.
Avant de partir dans un délire sur le... on les a battus, c'est très bien, ça faisait très longtemps. Ça permet de remettre un peu les choses en place parce qu'il y en a peut-être des chevilles qui s'étaient gonflées. Voilà, la manière dont ils n'ont pas aimé montre bien qu'ils ont un certain boulard. Et, de là à dire, on va les... Restons tranquilles, on verra, la saison est longue.
Oui.
Et moi, je
très bien qu'on ait comblé les points de retard importants que nous avions avec les équipes de tête.
Voilà,
on les rejoint bientôt.
Et je pense, quand tu vois les budgets, les effectifs, que si eux ne se ratent pas, ça sera dur.
On peut parler de Strasbourg, que nous allons rencontrer dans quelques jours.
Vendredi, on joue à Strasbourg, qui est une belle équipe.
Avec un effectif riche, on peut le dire.
Et riche, qui est l'équipe qui a fait le plus d'achats au mercato. avec l'inconvénient que peut-être il faut qu'ils intègrent les joueurs qu'ils ont achetés.
Ça fait partie.
Mais qui a pris, on sait que... C'est Chelsea qui achète et qui prête. Donc, il y a plusieurs joueurs très intéressants à Strasbourg, achetés très cher, mais prêtés par Chelsea. Et donc, ils ont une équipe costaud. Et on se rappelle qu'on avait perdu chez eux l'année dernière.
Et,
et qu'ils avaient fait match nul au Vélodrome, au retour. Et donc, ça ne va pas être match facile.
Une équipe de forte qualité avec qui risque de jouer les premiers rôles également.
Voilà, et qui, elle aussi, joue une qualif européenne. Et, et donc, je dis ça par rapport à certains trucs que j'ai lus ce matin sur les réseaux sociaux, où si tu écoutes, ça y est, c'est où la finale de la Ligue des Champions?
Oui, ça s'enflamme directement.
Fin mai, quoi.
Ça y est, on a battu le Paris Saint-Germain. Ça y est, c'est à nous, c'est terminé pour eux. J'entends un tas de galvauderies, de bêtises.
Là-dessus, restons calmes, on l'a fait.
Il faut raison garder.
Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un match très solidaire, très costaud. Tactiquement très bien joué, puisqu'on couvrait vraiment bien. Moi je suis en virage, donc en virage tu vois le terrain.
C'est une perspective du jeu qui est différente qu'à la télé.
Tu vois les mecs qui coulissent et tu vois la couverture.
On voit tout le travail sans ballon qui est effectué justement.
Et je parlais de Peck Shao qui a pas fait un bon match offensif, mais.
Son replacement a impliqué.
En première mi-temps, il était ailier gauche. Il venait attaquer vers le virage sud. Quand il perdait le ballon,
il a su se replier.
Il sprintait pour redescendre, pour aller aider Emerson. Et c'est Naïef Aguerre qui est sur son côté en stopper gauche. Donc, les gars ont fait le travail et ça, c'est fondamental.
À l'image d'un Greenwood qui, également, a fait un match complet.
Très complet, couvrant, pressant, coupant les lignes de passe.
Ça, c'est l'implication qu'il y a eu de nos joueurs.
Et inévitablement, surtout en fin de match, où il a 2-3 actions avec Aubameyang en contre et tout... Tu as tellement laissé de force.
Difficile de trouver la justesse technique pour réaliser ces actions.
Un petit problème de lucidité. Mm-hmm. Il a une belle action en fin de match où il manque de fraîcheur.
Ouais.
Mais il a fait le boulot. Et si tu fais pas le boulot, la fraîcheur en fin de match, tu auras peut-être pas besoin parce que tu auras pas l'action, quoi. Voilà.
Après, il y a eu des changements qui sont arrivés à point nommé.
Oui. Mais c'est vrai que Greenwood, il est sorti à quelques minutes de la fin. Ouais. Robinho Vaz l'a remplacé. Mais il s'est fondu dans la masse, il a cavalé pour défendre. Entre autres, il faisait comme a fait Aubameyang, sprints pour gêner la première relance. C'est vrai que chevalier au pied, c'est pas non plus...
C'est pas la sécurité sociale, comme on dit, entre guillemets.
Voilà, c'est pas là, c'est exactement. Et quand tu sprintes du gardien au défenseur à qui il a fait la passe pour gêner la relance, ça a l'air... tu as l'impression que tu cours dans le vide, mais tu laisses pas le mec avoir le temps de contrôler, de regarder, de chercher la bonne passe à faire.
Absolument.
Il envoie devant. Alors des fois, à Paris, ils envoient pas trop à l'aveugle. Hein, c'est pas le style. Mais enfin, je veux dire, il fait une passe à un joueur démarqué derrière, mais en tout cas, il repart pas devant. Tu le laisses pas contrôler tranquille, regarder, chercher une passe de 20-30 mètres en avant.
C'est un pressing qui, justement, impacte l'adversaire dans ses relances.
Ouais. Et c'est vrai que, je parlais d'Aubameyang, il a fait, mais Greenwood, Pechao et Guiri l'ont
l'ensemble
fait tout
de
le
nos
match.
Joueurs,
voilà.
De nos offensifs et de nos milieux dans un autre registre.
Voilà, les mecs, ils l'ont fait. Et bon, là, tu vois quand même, parce que des fois, on le critique, mais tu vois le boulot de l'entraîneur.
Oh oui.
C'est-à-dire, tu as travaillé, tu as des sorties de balles qui sont travaillées, tu as des déplacements. Quand moi, j'ai vu, par exemple, bon, je reviens à ce que je disais, en virage, tu vois le jeu dans la longueur. Donc, Rouli, l'arbitre l'a plusieurs fois averti, savait que maintenant, un gardien, il a 8 secondes quand il a le ballon dans les mains pour dégager.
Ouais.
Sinon, il y a corner, je crois. Je crois que c'est un corner contre toi.
Ouais.
Et il relançait quasi systématiquement au-dessus du milieu parisien qui pressait haut, tradition de cette équipe.
Oui.
Il relançait vers Guiri ou Aubameyang en avant-centre, qui eux avaient un défenseur dans le dos, mais qui venait contrôler passe pour remettre à un équipier pour garder le ballon.
Totalement.
Et donc, ça demande un travail de pressing, d'appel, de boulot, tout simplement, qui est considérable. Et tu es obligé de démarrer parce que le mec derrière, il n'attend pas. Hein.
On voyait justement le repli sur des appuis pour nos relances. Et voilà, chercher le ballon sur un contrôle pour s'appuyer sur un partenaire et pour pouvoir relancer proprement.
Voilà, et en plus, Guiri, c'est tout à fait le type de joueur pour ça. Très technique, très fin techniquement, pas rapide, mais très fin.
Oui, mais... D'où sa titularisation en même temps, et son travail n'était pas... On pouvait imaginer peut-être Aubameyang, etc. Oui. Mais non, mais il était très bien à sa place et son travail a servi notre équipe.
Et là aussi, c'est un truc pour De Zerbi. Aubameyang a 36 ans, il a fait un bon match à Madrid,
et
il
était
difficile de lui demander de cavaler comme un dératé pendant 80 minutes au Vélodrome.
Ça aurait été malvenu, évidemment.
Guiri, qui en plus a fait un très bon match offensif, très technique, avec une belle qualité de conservation du ballon, capable
qui venait chercher les ballons au milieu pour...
Dans le rond central, où il venait récupérer des dégagements, pour essayer d'aider l'équipe à remonter en passant soin. Plusieurs fois, il a réussi les contrôles, il a décalé un joueur sur l'aile.
Oui.
Et plusieurs fois, il a remis en retrait Højbjerg ou O'Reilly pour qu'eux relancent vers le but. Et ça, c'est un truc qui est préparé. Hein, c'est pas... Et les gars l'ont fait avec beaucoup de sérieux.
On a vu qu'un peu de séance de travail sur l'ensemble de cette équipe qui est complète à présent, évidemment que la compréhension a été assez rapide pour la majeure partie de l'équipe, pour l'ensemble de l'équipe.
Alors oui, comme tu le dis, pour l'instant... alors on peut regretter que le mercato ait été tardif, mais on sait que c'est des problèmes financiers.
Et évidemment,
parce que
on en revient.
On prend Pavard par exemple, les gens te disent on l'a pris le dernier jour, pourquoi on l'a pas pris avant?
Parce qu'on n'aurait pas pu le prendre.
Parce que Pavard il est à 700 000 euros par mois.
Et puis il y a l'incident qu'on ne va pas reciter.
Le départ qui n'était pas prévu de l'international français. Mais Pavard, il est à 700 000 par mois l'Inter Milan. Et l'Inter Milan prend en charge un tiers de la paye.
Heureusement.
Il se le prête un an. Ouais. Tu as une option d'achat à 15 millions ouais, à la fin ça, de ouais, l'année, ouais. Et tout un problème sera de négocier le salaire, parce que 700 000...
Il est évident que c'est vraiment un jeu de show business et c'est une gestion financière. Voilà, voilà.
Parce qu'on rappelle qu'il était arrivé libre du Bayern de Munich à l'Inter Milan. Mmh. Enfin, il était arrivé pour une somme faible. Donc, disons, parce qu'il était à un an à la fin de son contrat, et du coup, il avait négocié un gros salaire. Oui. Et toi, tu n'as pu le prendre que parce que l'Inter te paye.
Et puis l'Inter de Milan avait besoin aussi
eux, il faut qu'ils baissent leur budget. Voilà, donc, ils préfèrent te le prêter en prenant en charge un tiers du salaire.
De dégréver un petit peu au niveau joueur.
Voilà, que le garder. Voilà. Et donc, c'est des jeux que tu ne peux
on
faire.
On n'a su en bénéficier qu'à la fin du mercato. Quoi.
Quand le club qui espère le vendre en récupérant 30 millions, ben finalement, il te fait une option d'achat à 15 et il accepte le lundi, le dernier jour du mercato, de prendre en charge une partie du salaire sur un an. Pour que tu prennes avec une option d'achat. Sinon, tu ne peux pas.
On peut dire encore une fois, bravo, justement. On peut parler de Benassia, etc., du staff dirigeant qui a su s'en recruter au dernier moment.
C'est la même chose sur Naïef Aguerd et sur Emerson Palmieri. Oh là là. Que West Ham voulait vendre cher et que finalement, ils ne sont pas arrivés à vendre au prix qu'ils voulaient. Oui. Et tu as Aguerd à 22 millions, je crois. Et Emerson à 1 million parce qu'il était pratiquement en fin de contrat et il ne voulait pas prolonger. C'est quand même des joueurs d'expérience qui ont de la qualité. Rappelons quand même qu'Emerson Palmieri, il était international italien et il a été champion d'Europe en 2021. Il ne
faut pas oublier justement son palmarès.
C'était le remplaçant de Di Marco en équipe d'Italie y compris à jouer la finale. Quoi.
Donc, là, ils en auraient besoin peut-être à présent, la squadre. Voilà, c'est une parenthèse rigolote.
Et qui avait joué, je crois, à Chelsea où il a gagné l'Europa League ou un truc comme ça. Donc, c'est des mecs
je crois que c'est l'Europa League.
D'expérience, voilà. Et donc, c'est des gars que tu as pu avoir en dernier moment parce que leur club qui en demandait 10 millions, 15 millions n'a pas pu les vendre. Et toi, tu as pu récupérer à l'arrache le dernier jour.
Pour bénéficier de cela, il fallait vraiment être à la gâchon, comme on dit à Marseille.
Mais après, c'est les contacts qu'il y avait, à part Pavard.
Ça reste un travail de fond au préalable.
Ça reste un travail.
Et on en bénéficie à la toute fin.
Voilà. Il faut rappeler qu'à Guerre, par exemple, ils avaient le même agent que Mehdi Benatia. Mehdi Benatia est devenu agent et puis il travaillait avec lui.
Et les relations humaines mènent à beaucoup.
Et ils se connaissent de l'équipe du Maroc parce que quand Aguerd est arrivé la première fois en équipe du Maroc, Benatia était sur la fin de sa carrière, c'était le capitaine.
Donc, on s'en souvient.
Voilà, donc les mecs, ils se connaissent, ils se parlent. Mm-hmm. Voilà. C'est des trucs, des opportunités que tu as pu faire. Comme Timothy Weah, tu le voulais depuis le début et finalement tu l'as signé fin août.
J'étais quelque peu dubitatif lors de son arrivée, et puis c'est vrai qu'on l'a trimballé à droite, à gauche, sur des postes qui ne sont pas les siens, et là on trouve le vrai Weah. On attendait que la Juve ne voulait plus, d'ailleurs je me demande pourquoi.
Pour des raisons budgétaires.
Tout simplement, on en revient.
C'est-à-dire trop d'effectifs, des jeunes qui sortent à faire jouer. Et des éléments que tu veux vendre, c'est ce qui est arrivé pour Pavard.
Oui.
Pavard, c'était son gros salaire qui plombait les finances. Comment tu le dégages? Ils ont essayé de demander très cher, ils ne sont pas arrivés, parce qu'il a quand même 29 ans. Et du coup, en fin de mercato, c'est parce que le gars a voulu venir ici.
Alors, au-delà de la gestion financière, ensuite, une fois que nous avons réalisé les acquisitions de ces joueurs, c'est la gestion humaine. Et évidemment que là, ça part d'une manière fabuleuse, parce qu'on pouvait imaginer attendre un petit peu pour que que l'ensemble soit cohérent. Et là, on est plus que...
C'est pour ça que je pense...
Agréablement surpris.
Je pense que manquant de temps de travail et d'organisation, il a fait la défense à 3 qui te stabilise, surtout qu'avec un Weah et un Emerson.
De 3 on peut se retrouver à 5.
Il a des pistons qui ont l'expérience. Et puis Weah, on en rigole, mais il est international américain, il joue des compétitions, il a joué la Coupe du Monde.
Nous avons que des internationaux dans cette équipe.
Et donc c'est quand même des gars de métier. On l'a vu hier, hein, il y a eu des incidents, des accrochages, des provoques, les mecs, ils n'ont pas...
Comme tu le disais si bien...
Ils n'ont pas tombé dans le panneau.
Voilà, hein, ils ont su gérer la situation intelligemment et pas tomber dans le panneau. Hein.
Un jeune un peu écervelé...
Ça part vite en sucette.
Voilà, ça part vite en sucette.
S'ils veulent te faire dégoupiller...
Voilà, et eux ils ne sont pas tombés dedans, c'est très bien. Nous verrons bien et nous en parlerons la semaine prochaine, quand on débriefera le match à Strasbourg.
Ah, justement, et c'est là qu'il ne faut pas perdre les acquis de ces derniers matchs.
C'est là qu'il faut, en espérant qu'on aura suffisamment de temps, 4 jours ça devrait aller, pour récupérer.
Ben, il va falloir s'y habituer.
Oui, avec la Ligue des Champions, tu n'as pas le choix. Et sachant que quand tu gagnes, tu es moins fatigué que quand tu perds. Voilà, c'est une évidence.
On l'a toujours dit, mais c'est une réalité.
Voilà, c'est une réalité.
Merci à toutes et à tous. Patrick, de tout cœur avec toi.
Voilà.
Et on poursuit l'aventure avec l'Olympique de Marseille.
Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le match à Strasbourg. Et on vous souhaite en attendant une excellente semaine.
Ah ouais. Et nous allons faire de même.
Voilà.
Allez, à très bientôt.
Et n'oubliez pas de fêter le ballon d'or de Dembélé.
Ah, la boutade que j'attendais.
Non, mais le joueur, je l'aime bien. C'est
ben
bon
moi
joueur
aussi.
Et il méritait, c'est un mec sympa.
Il a failli me tirer des larmes aux yeux quand j'ai vu la fin de la cérémonie.
Voilà. Mais allez. C'est pas tellement lui qui me pose problème.
Vraiment.
Voilà.
Allez,
bonne
merci.
Semaine à tous.
Au revoir.